En danger, il n'est pas fou. Il se met pas en danger, il cherche pas les ennuis. Il attend que ça eût l'effet quelques pas un peu plus loin pour l'interpeller. On se met pas en danger quand il y a un conflit. Et je pense que c'est un bon exemple. Il attend que ça eût l'effet quelques pas. Et puis il l'interpelle. Et comme on est dans la nature, il crie fort pour qu'il l'entende. Il interpelle Saül quand il est déjà un peu éloigné. Ensuite, le verset suivant. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « David cherche ton malheur ?» Ah oui, avant, il fallait dire, vous avez vu qu'il s'incline contre terre, il va respecter le protocole. C'est un sujet, lui, c'est le Saül est le roi, il a des égards dans ses paroles et dans ses gestes. Il respecte le protocole. Et je pense que pour nous, c'est un très bon modèle. Quand on s'adresse à notre patron, au directeur d'école, aux profs, on a souvent des conflits avec les profs. Ils ne sont pas faciles à vivre, les profs. Il y en a quelques-uns ici, mais ils vont m'en vouloir. Ce n'est pas toujours facile. Hein, l'éducation nationale, c'est une institution qui peut être lourde parfois. Ah, merci. Et donc, ce n'est pas toujours facile quand on a un conflit avec un prof. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Et ce que je conseille toujours aux parents, c'est allez-y doucement. Les profs sont des gens très susceptibles. Je vais avoir des ennuis à la sortie. Et ils se sentent toujours attaqués. J'ai vu ça avec les instits, que ce soit en primaire, que ce soit en secondaire. On est beaucoup plus à l'aise avec les profs d'université. Mais au primaire, au secondaire, il y a cette tendance à « oulala, les parents vont me faire du mal » parce qu'il y a effectivement beaucoup de parents qui leur font du mal. Et donc, il y a un protocole à respecter dans les paroles, dans les gestes. Et je sais que les parents parmi vous qui ont suivi ces conseils-là, ils en sont contents parce qu'ils ont eu l'oreille du prof en question. Ils ont même eu sa bienveillance. Donc, j'exhorte vraiment quand vos enfants, même si c'est vos enfants qui ont fait des bêtises, parfois c'est le prof qui a mal vu, mal entendu, mal corrigé, ça peut arriver aussi, c'est de toujours prendre des égards. Et tous les parents qui l'ont fait ne l'ont pas regretté. Et au contraire, même parfois, ça crée des amitiés très fortes parce que pour une fois, le prof s'est senti compris et apprécié. Donc c'est important de respecter un certain protocole, que ce soit le président d'une association, que ce soit le patron. Je crois qu'en tant que chrétien, nos paroles et nos gestes doivent respecter notre foi chrétienne. Et on agit comme Jésus aurait agi. Je crois que c'est très très important. Et là, David nous donne un très bon exemple. Il s'incline contre terre. Mais rendez-vous compte, ce gars n'avait qu'une idée, c'est lui faire la peau. Et il s'incline contre terre, il respecte le protocole. Il ne s'occupe pas que Saül est un peu monstrueux quand même ces derniers temps. Vouloir tuer ce pauvre David qui n'a rien demandé à personne, ça ne fait rien, il respecte. Et je pense que... Alors il y en a qui vont me dire, oh mais c'est de l'hypocrisie, je ne crois pas. Je dis toujours, est-ce que c'est de l'hypocrisie de se laver les mains avant de manger, même quand on n'en a pas envie? Non. Hein. Demandez à un enfant, va te laver les mains. Oui, va te laver les mains avant de manger. Est-ce que c'est de l'hypocrisie quand il le fait? Il le fait, ça lui casse les pieds, il n'est pas content que vous lui demandiez, il trouve ça casse-pied et tout, mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Il faut le faire, il obéit, et puis c'est dans son intérêt. Hein. Donc, faut pas trop jouer sur la notion d'hypocrisie, parce que très souvent, j'entends des choses comme ça, où j'ai entendu dans le passé, « Ah oui, mais si je suis gentille avec telle personne, c'est de l'hypocrisie. » Non, c'est de la politesse. Alors, est-ce que la politesse, c'est de l'hypocrisie? C'est un code social. C'est un code social qui, justement, met de l'huile dans les rouages. Bien sûr, on peut refuser de faire ça en se disant « Moi, je suis pas hypocrite », et on met du sable dans les rouages, et on sait ce que ça va donner. Hein, je crois que c'est de l'huile, et c'est important, on a besoin d'huile dans les rouages. C'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ce serait dire à quelqu'un exactement le contraire de ce qu'on pense. Ou exactement le contraire de ce qu'il est, et on le sait. Mais être poli, avoir des égards, même avec quelqu'un d'extrêmement désagréable, c'est de la politesse, c'est de la courtoisie. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. C'est pas de l'hypocrisie, c'est un code social qu'on respecte et qui nous permet de vivre correctement avec les gens qui nous entourent. Alors, donc David respecte ça. Moi, j'admire parce que je ne sais pas si quelqu'un avait vraiment l'intention de me tuer. Je ne sais pas si j'irais jusque-là. Mais voilà. Et puis, il continue. Donc, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « David, cherche ton malheur ?» Ah, il n'est pas bête, David. Il a compris une chose importante, c'est que c'est pas forcément Saül qui lui en veut à mort et qui a des mauvaises idées, etc. C'est que Saül, visiblement, ce verset m'a pas mal parlé, il est remonté, comme on dit, par d'autres gens. Et vous voyez qu'il pose une question. Il n'est pas là, « Saül, tu fais ceci, tu fais cela, t'es un ceci, t'es un cela. » Mais pourquoi est-ce que tu écoutes les gens? Ça veut dire qu'il est au courant. Il est au courant qu'à la cour du roi, et ça, si vous lisez un peu l'histoire de Louis XIV et autres, vous voyez bien que les courtisans, elles sont très douées pour ça. Pour flatter le roi, on lui raconte toutes sortes d'horreurs sur les autres. Et David est conscient que certains courtisans vont remonter Saül contre lui. En faisant quoi? Eh bien, en augmentant sa jalousie et sa peur. Ça marche bien, ça. Vous savez, il y a des boutons comme ça pour dresser les gens les uns contre les autres. Augmenter la jalousie, augmenter la peur. Ça marche très très bien. C'est un truc qui marche très bien et qui peut rapidement démolir quelqu'un, même quelqu'un que Dieu a appelé. David avait été appelé par Dieu. Et les courtisans ne se sont pas gênés. Voyant que David montait dans l'estime de tous, ils ont cherché à le démolir en activant la jalousie et la peur de Saül. Il faut faire attention à ça. Et faire attention aussi quand, au travail ou ailleurs, les gens essaient d'activer votre jalousie ou votre peur de quelqu'un. Parce qu'on est sensible à ça. Et il faut être attentif. Si quelqu'un vient vers vous pour vous remonter contre quelqu'un, soyez prudent. Surtout dans le cadre du travail. Ça peut vous faire vraiment du tort. Restez prudent et restez à l'écoute du Seigneur. Faites pas comme Saül qui a tout gobé. Comme disent les Anglais... le poisson, l'hameçon et la ligne. C'est, non, attention, soyons prudents, parce que ça peut vraiment nous faire du mal aussi à nous. Ceci étant, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que David n'insulte pas ces gens-là. Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent? Mais il ne dit pas « ce sont des ceci, ce sont des cela ». Et il ne se révolte pas contre eux, il n'insulte pas le roi ni les courtisans. Pourtant, ils sont singulièrement menteurs, parce que David n'a vraiment jamais fait de mal à Saül. Mais il ne va pas les accuser. Donc, voyez, s'abstenir d'insulter même des gens qui le mériteraient. Donc, il pose une question. Vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui se font par des questions. Jésus posait des questions. Et c'est dans la culture juive, et je crois que c'est précieux aussi pour nous, au lieu de retomber sur le poil des gens, de poser des questions. Parfois, ça peut changer notre point de vue aussi. Alors, ensuite, tu vois en ce jour de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'a dit alors de te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le Messie. Ça veut dire l'envoyé, hein, le Messie de l'Éternel. Ah ! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, David, là ? Il rappelle les fêtes. Pas ses impressions, pas ses pensées, pas ses imaginations. Les faits, pas ses sentiments, les faits. Il reste sur les faits. Tu vois de tes propres yeux. Et quand on a un conflit avec quelqu'un, c'est important de rester sur les faits. Parce que nos impressions, nos pensées, notre imagination, nos ressentis, c'est un petit peu comme du brouillage radio. Et ça fait un flou. Et il faut éviter d'aller de ce côté. On dit toujours, il faut respecter le ressenti des gens. Mais ceci étant, le ressenti n'est pas toujours vrai. Vous pouvez parler avec quelqu'un, par exemple, et ressentir qu'il est hostile. Peut-être qu'il a mal au ventre, peut-être qu'il est pressé, peut-être. Et vous avez cette impression, ce ressenti. Mais il est faux, la personne, elle n'a rien contre vous. Mais vous le ressentez, peut-être qu'il y a une autre raison. Peut-être qu'il est malade, peut-être, voilà. Et donc, il faut se méfier de nos ressentis. Parfois, ils sont justes, mais parfois, ils sont faux. Parce qu'on les interprète à notre manière. Donc, il ne reste pas sur les ressentis. Tu vois de tes propres yeux. C'est du concret, c'est de la réalité, c'est la vérité. Tu vois. Que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'a dit de te tuer. C'est la réalité. Et j'ai répondu, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, c'est l'envoyé de l'Éternel. Voilà, des fêtes tout simples. Ensuite, il va plus loin. Il dit, vois mon père, voyez, on reste sur les faits, les choses qu'on peut voir. Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, mais reconnais et considère qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. C'est clair. Des fêtes. Et en plus, il a des preuves matérielles. Hein? C'est important quand on va voir un prof d'emmener la copie de l'élève, si besoin est. Les preuves matérielles. Les preuves matérielles, c'est important. Il avait le bout du manteau, la preuve de son innocence. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas du blabla raconté par les courtisans, c'était des preuves matérielles concrètes. Regarde, j'ai coupé un bout de ton manteau, si j'avais voulu, je t'aurais tué, mais réfléchis, regarde un peu la réalité en face, je suis innocent, il n'y a pas chez moi de malveillance ni de révolte, je n'ai pas péché contre toi. Les fêtes, voyez, il reste vraiment sur les fêtes, les preuves concrètes. Là, je pense que ça parle. Vous avez remarqué au passage... « Vois mon père ». Alors, on le dirait peut-être plus autant aujourd'hui, mais à l'époque, et je crois peut-être en Afrique encore, hein, on peut appeler père quelqu'un pour qui on a du respect. Et en fait, il fait appel à quoi, là ? Eh bien, il a fait... Hein, il a respecté le protocole, il a posé des questions, il est resté sur la réalité, les faits. Et là, maintenant, il fait appel à ses sentiments. Mais enfin, en disant « mon père », mais rappelle-toi, Saül... Tu étais comme un père avec moi. Rappelez-vous tout ce qui s'est passé. Tu as voulu me prêter ton armure. J'avais l'air tellement idiot là-dedans. Mais c'est un peu tout ça, mon père. Mais rappelle-toi les relations qu'on a eues. Comment est-ce que tu peux vouloir me tuer maintenant ? Mon père, c'était fort. Hein. D'ailleurs, vous savez, il y a été sensible. Vous allez le voir après. Ensuite, et toi, tu pourchasses ma vie pour me la prendre. Ah ! Oh là là ! Là, ça change de ton. Il dit la vérité, même si la vérité déplaît. Alors ça, c'est difficile. Surtout, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Lui dire la vérité, et on sait que ça va le choquer, c'est pas évident. Hein. Mais parfois, c'est nécessaire. Mais vous voyez toutes les précautions qu'il a prises avant. Il lui a pas foncé dessus en disant « Tu pourchasses ma vie !» Moi, j'aurais peut-être pu commencer au début, hein, dès qu'il était sorti de la grotte, il lui court derrière « Tu pourchasses ma vie !» Donc vous avez vu tout ce qu'il fait avant pour le disposer favorablement. Il prépare le terrain en étant juste, en étant vrai et en étant respectueux. Et ça, je vous le conseille fortement, surtout avec l'éducation nationale. J'ai des souvenirs. Ça marche. Et toi, tu pourchasses ma vie. Il dit les choses comme elles sont. Il n'enjolive pas. Il n'a pas peur. Moi, je trouve qu'il a du courage. Hein. Et l'amour, le respect, ce n'est pas de la guimauve. Il y aura toujours des gens pour vous dire « Ouais, mais il faut être gentil, ça dégouline de miel et de guimauve. Et... » Non, 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 non. La Bible, c'est la vérité dans l'amour, mais la vérité, elle est là. Tu pourchasses ma vie. Et après les fêtes qui ont été citées, il ne pouvait pas nier, hein. Ça c'est clair, il ne pouvait pas rentrer dans le déni. Et là, il va encore un petit peu plus loin. « L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main elle-même. » ne sera pas contre toi. Alors là, il y a plusieurs choses. Hein. D'abord, il le place face à Dieu. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Et ça, c'est précieux. Et vous allez voir, si on a le temps tout à l'heure, dans le dialogue entre Abigail et David, on va retrouver ça. On replace la personne devant Dieu. C'est très, très juste et c'est la meilleure chose à faire. Alors évidemment, avec les profs, on ne pourra pas, mais il y a d'autres moyens de procéder. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Il n'y a pas d'injure. Il n'y a pas de menace. C'est pas une menace. Hein. Rappelez-vous Jésus avec les pharisiens. Il explique sa position et son comportement. Et il explique aussi pourquoi il ne va pas répondre. Mais il dit quand même les choses comme elles sont. C'est Dieu qui va être juge entre nous. Par contre, sache que moi, je ne me vengerai pas. Moi, je ne t'attaquerai pas. Moi, je ne répondrai pas à tes attaques. Formidable. Vous allez voir tout à l'heure, avec Nabal, ça va être une autre musique. Hein. C'est important de faire la comparaison entre les deux textes. Il répondra pas parce que la vengeance appartient à Dieu. Et Saül connaît très bien ces versets bibliques qui disent que la vengeance appartient à l'Éternel. Chercher à se venger, c'est vraiment se planter le couteau. Soi-même. Parce que la vengeance appartient à Dieu. Et je dois vous dire que la vengeance... Dieu est très fort côté vengeance, pas dans le sens de méchanceté, mais dans le sens de justifier la personne qui a été attaquée à tort. J'ai vu, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, comment Dieu s'y est pris. Quand soi-même on refuse de répondre, on refuse de se venger, on refuse de rendre le mal pour le mal, tout en dénonçant le mal, vous voyez, il le dénonce quand même. Comment Dieu nous défend ? Et il est sévère parfois on est étonné. de la façon dont Dieu va s'y prendre. J'ai vu des choses surprenantes, je pense, quand ma sœur travaillait à Rouen, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, mais ça m'a énormément frappée. Elle avait quelqu'un qui faisait de l'occultisme dans son service, enfin, c'était un chef sur les côtés, pas hiérarchique, mais dans le temps. Et je ne sais pas pourquoi, il l'avait pris en grippe. Et il faisait visiblement de l'occultisme, on a eu quelques preuves de ça. Et un jour, il est venu en son bureau en lui disant « T'es pas encore crevé, Gao ?» Bon, il était étonné qu'elle résiste à ses pratiques et qu'elle soit en bonne santé. Et elle n'a rien fait, elle a simplement prié. De toute façon, dans ces cas-là, il faut mieux se rester tranquille. Elle a prié, elle s'est confiée en Dieu, elle a prié pour cet homme au lieu de lui faire du mal. Elle a vraiment prié pour lui. Et quelque temps après, il était à quatre pattes sur la pelouse. Il faisait une crise de folie. Et il a été embarqué dans un asile psychiatrique. Quand Dieu se fâche, il se fâche. On n'attaque pas les enfants de Dieu impunément, à condition que l'enfant de Dieu ne réplique pas. Si on rentre dans « je me défends, je réplique, je contre-attaque », Dieu retire sa main. Tu veux te défendre toi-même ? Défends-toi toi-même. Mais si on laisse les choses au Seigneur, alors ce n'est pas à souhaiter, hein. Ce qu'elle aurait souhaité, c'est que la personne s'approche du Seigneur, elle lui a parlé de Dieu et tout, mais bon, il n'a pas voulu, il a fait un choix. Mais laissons Dieu nous venger. Pour des petites choses, pour des plus grandes, parfois Dieu le fait avec humour. J'aime l'humour de Dieu. Il a créé les girafes et les singes. Il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour. Et parfois, il nous venge avec beaucoup d'humour. C'est pas méchant, mais ça fait rigoler. Bon, et qu'est-ce que Dieu, David va dire ? L'Éternel sera juge entre toi et moi, l'Éternel me vengera de toi, mais moi, ma main elle-même ne sera pas contre toi. Gardez ce verset en tête. Chaque fois que vous avez quelqu'un qui vous fait des ennuis, je pense particulièrement aux situations de travail, parfois il y a des gens qui sont lourds au travail, hein. Ils sont pénibles. Mais pensez toujours à ça. Confiez-vous dans le Seigneur, c'est lui qui vous défendra. Et si vous vous mêlez de vous défendre vous-même, c'est dommage. Donc, la promesse est claire. Moi, je ne ferai rien contre toi. Ensuite, contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort ? Une simple puce ? Voilà, il fait un petit peu d'humour. Ça détend l'atmosphère. Il lui rappelle le ridicule de la situation. Le côté complètement disproportionné. Un roi puissant, avec 3000 hommes d'élite. Non mais, rendez-vous compte, 3000 ? 3000, c'est la population d'un petit bourg. Hein. Mon village en a que 900. Enfin, 3000, vous imaginez ? Des hommes d'élite ? Contre qui ? Un pauvre gars qui est à peine correctement armé, qui a maintenant 600 hommes avec lui, mais autrefois il n'avait pas grand monde. C'est ridicule. Contre un fugitif avec 600 pauvres types, on va dire. Hein. Un roi qui poursuit un chien mort ou une puce. Est-ce que ce n'est pas ridicule ? Il lui rappelle ça. Contre qui tu veux te battre ? Mais enfin, en quoi suis-je une menace pour toi ? Mais regarde qui je suis, mince ! C'est important. L'Éternel, et là il revient encore à Dieu, l'Éternel rendra justice. Il sera juge entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause, il sera mon juge en me délivrant de ta main. Ah, il est beau ce verset. Il ne rappelle pas certains psaumes, hein, quand on est dans les problèmes. L'Éternel rendra la justice. En fait, je crois qu'il se faisait du bien à lui, là. Je ne sais pas s'il parlait tellement à Saül, mais je crois qu'il se remontait le moral à lui. L'Éternel entre à justice, il sera juge entre toi et moi, il regardera. Vous savez, parfois on a l'impression que Dieu ne regarde pas. Mais Seigneur, tu ne te rends pas compte de ce que je vis ? Un tel a fait ça, un tel a fait ça. C'est pas facile. Mais je crois qu'il se parle à lui-même, il regardera. Il défendra ma cause, il sera mon juge en me délivrant de ta main. Dieu délivre. Et c'est vrai. Il insiste sur la justice de Dieu. Et je crois que c'est une forme de proclamation chez lui. Ça doit être douloureux pour Saül, je pense. Parce que Saül savait qu'il avait perdu la faveur de Dieu. Et même le contact avec Dieu. Il est donc, lui, livré à lui-même. Alors que David, dans sa faiblesse, il est du bon côté. Je pense que ça a dû toucher le cœur de Saül. Et quand David finit d'adresser à Saül ses paroles, Saül lui dit... Et maintenant, on va voir la réponse, la réaction de Saül. Et elle est étonnante, la réaction de Saül. On a toujours des sentiments mitigés avec Saül. Hein. Le professeur Nicole, qui était là l'autre jour, m'a dit, on est quand même toujours un peu partagé entre le pauvre homme qui a glissé et puis le méchant qui poursuit David. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu partagé entre les deux. Et là, c'est un de ces moments où on va être partagé. D'abord, il lui dit, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à sangloter. Oh, ça, c'est curieux. Bah, parce que c'était un homme, il avait encore du cœur. Il n'était pas complètement pourri jusqu'au trognon. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il va d'abord être touché dans ses émotions. Oh, rappelez-vous le « mon père », je pense que ça a fait son travail dans son cœur. Il est touché dans ses émotions et il repense certainement lui aussi à son affection pour David. Rappelez-vous, quand il allait mal, qui est-ce qui venait jouer de l'harpe pour lui? Bah, c'était David. Et il se sentait tellement mieux après. Tout ça, ça doit remonter. Hein. Et il pleure. Il pleure. Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül se mit à sangloter. Je pense qu'il pleure aussi, peut-être, rétrospectivement. Ouh là, je l'ai échappé belle, j'ai failli être découpé en rondelles. Il a découpé un bout du manteau, mais il aurait pu découper ailleurs. Et je pense que ça aussi, ça vous savez, c'est un peu comme quand on a traversé, on a failli se faire écraser. Ouh, après, on est tout bizarre. Je pense qu'il a dû être secoué. Il vient d'échapper à la mort. Il vient d'échapper à la mort, ça fait drôle. Et ça l'a secoué, c'est sûr. Et puis, deuxième chose, donc il est touché en ses émotions. Il va même tirer les bonnes conclusions. Il va être touché dans sa logique. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Il a compris le message. C'est un petit peu comme l'histoire de quand les Fabiano nous avaient fait, vous savez, l'échange avec la bille. C'était une façon de dire, j'ai compris le message, je te répète ce que tu as dit, c'est juste, j'ai pigé. Et il tire les bonnes conclusions. Si quelqu'un trouve son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tout bonnement son chemin? Bon, autrement dit, toi, tu t'es pas comporté en ennemi. Il tire les bonnes conclusions et il va lui dire même au verset 18, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu du bien et moi je t'ai rendu le mal. » Oh ! Il est touché dans ses émotions, il est touché dans sa logique. Verset 19, « Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré et que tu ne m'as pas tué. » Donc c'est ce qu'on a lu. Il est aussi touché dans sa foi. Aussi formelle qu'elle soit, il a une certaine foi en Dieu et il reconnaît que l'Éternel va récompenser David. Donc il est touché dans ses émotions, dans sa logique, dans sa foi. C'est curieux. Et il va plus loin. Il va plus loin que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je le sais, tu régneras à coup sûr et tu auras le royaume d'Israël bien en main. What? Mais qu'est-ce qui lui prend à Saül? Il va prophétiser. Il va annoncer ce qui va se passer. Mais c'est bizarre. Il va être touché jusque dans les dons qu'il avait reçus pendant un temps. Vous vous rappelez, il avait prophétisé à deux reprises. Il est conscient que David a la stature d'un bon roi. Et il va le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a conscience qu'il avait le souci de l'intérêt collectif. David, c'était pas moi. Pourvu que moi je me sente bien, c'est l'essentiel. Pourvu que moi je sois à l'aise et que je fasse ce que je veux, quand je veux, comme je veux, tout va bien. Non, David, c'était les autres. Protéger, vous vous rappelez, protéger sa famille, protéger son entourage, veiller sur ses hommes. On va le voir tout à l'heure avec Abigail. Donner à manger à ses hommes. Il pense toujours aux autres. Et ça, c'est un bon roi. C'est celui qui pense à l'intérêt collectif, qui pense pas qu'à lui. Et pas seulement l'intérêt de la gloire, comme a fait notre cher Louis XIV, mais l'intérêt du bien-être de chacun. Que l'Éternel te récompense. Maintenant, je le sais, tu régneras. Donc, il prophétise, il va être touché jusque dans ses dons. Il est conscient que David a compris que tuer Saül, c'était arriver à une guerre civile. Donc, faire du mal à son pays. Et vous savez, je pense que parfois, quand quelqu'un a vraiment fait des bêtises, il faut réfléchir, se dire, bon, je vais lui foncer dedans, je vais lui dire ça et ça, je vais faire ceci ou faire cela, ou je vais lui faire des sales coups. Il faut penser aux autres aussi. Qu'est-ce que ça va faire derrière? Les dangers collatéraux, les retombées, est-ce que d'accord, moi je vais évacuer ma colère sur cette personne, mais qu'est-ce que ça va faire sur les enfants, sur l'entourage, sur le reste de la classe, si c'est l'école, sur les autres collègues, si c'est au boulot. Peut-être penser à ça aussi. Et David, il a pensé à ça. Il a pensé au pays. Et il a pensé à Dieu. Et je crois que c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'il va prophétiser, tu vas être un bon roi, en quelque sorte. Bon, alors là, on peut se dire, dis donc, bravo, bravo Saül, hein, c'est formidable. Là, tu prends un bon tournant, ouf, tu nous rassures. Parce que tout ça, l'émotion, la raison, la logique, la foi, la prophétie, là, on s'attend à ce que Saül vive une véritable conversion. Tous les domaines de sa vie ont été touchés, il a pleuré. Et il a même fait le premier air du TQP, imaginez. Reconnaître. Il a reconnu que David avait raison. Il a reconnu qu'il rendait le mal pour le bien. Il a reconnu ses fautes. Alors, bah, tout a changé. Eh ben non. Non. Et pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Jure-moi maintenant. Voilà, maintenant. Maintenant, je le sais, tu régneras. Et juste après, jure-moi maintenant par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après moi et que tu ne détruiras pas mon nom de ma famille. Ouh, à peine centré sur lui. Eh ben non, il n'y a pas de vraie repentance. Il n'y a pas de renoncement. Alors là, on va suivre le TQP. Il n'y a pas de renoncement. Donc, il n'y a pas de deuxième R, c'est la repentance. Le troisième, c'est le renoncement. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Je ne me repens pas de ce que j'ai fait et je renonce pas à continuer à faire le mal. Il lui dit pas, je vais arrêter de te poursuivre, hein. Ce serait peut-être la moindre des choses. Je vais te fiche la paix, je vais te laisser vivre en paix. Non. Non, non. Tu régneras. Voilà, c'est bien, mais pas de renoncement. Ça, c'est important. Pas de demande de pardon, donc il n'y aura pas de restauration possible. Le dernier R du TQP, il n'y aura pas de restauration possible parce qu'il y a juste le premier, reconnaître. Pas de repentance, pas de renoncement, donc pas de restauration possible. Aïe, ça c'est horrible. Il manquait la crainte de Dieu. Quelqu'un peut reconnaître ses fautes, ses failles et ses péchés. Cette personne peut pleurer et citer des paroles de Dieu. Mais s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de renoncement pour l'avenir, s'il n'y a pas de demande de pardon, bah, ça ne change pas grand-chose. Autrement dit, on prend les mêmes et on recommence. Et vous allez voir, bientôt, il va remettre ça, prêt à tuer David. C'est fou, hein ? Saül va continuer à poursuivre David. Après tout ça, vous vous rendez compte ? C'est presque impensable. Après tout ça, il va recommencer. Et pourquoi ? Eh bien, je pense que la réponse, elle est dans ce que les mots sur lesquels j'ai insisté tout à l'heure. Tout ce qui préoccupe Saül, c'est moi. On est en danger quand on ne s'inquiète que de soi. On est en danger quand on pense qu'à soi. Je viens de lire un texte magnifique de C.S. Lewis justement là-dessus. Je voulais l'apporter, je l'ai oublié, mais je pense que je l'apporterai la prochaine fois. Vraiment, il a compris ce principe. Ouvrir son cœur, penser aux autres, c'est un risque, c'est se rendre vulnérable et c'est risquer d'être blessé. Alors, la bonne solution pour certains, c'est de fermer son cœur. Mais un cœur fermé, c'est un cœur qui se dessèche, un cœur qui s'endurcit, et qui devient malheureux. Voilà. C'est beaucoup mieux dit que ça, mais je vous le lirai la prochaine fois. Donc voilà, qu'est-ce qui le préoccupe ? Moi, ma descendance, après moi, mon image, mon nom, ma famille, l'extérieur, la réputation, mais pas le cœur, pas sa relation à David, ni même sa relation à Dieu, et encore moins le peuple. Voyez où est le problème de Saül ? Il se replie sur lui. Et du coup, dans ces cas-là, il n'y a pas de repentance possible, il n'y a pas de renoncement. Même s'il y a le premier R, reconnaître. Oh, je reconnais que j'ai des failles, je fais du mal, je sais. Mais ça s'arrête là. Je pleure là-dessus, mais je ne vais pas plus loin. Et là, on ne peut rien faire pour les gens qui rentrent dans ce genre de dynamique. Et c'est triste. C'est très, très triste. Saül ne promet jamais de ne pas poursuivre David. Il a accepté sa leçon. En plus, il n'a pas rouspété. Hein. Il a accepté tout ce que David lui a dit, mais il n'a rien changé. Et c'est ça le plus important. Notre écoute de la parole de Dieu doit amener des changements dans notre vie. Et là, on est tous à la même enseigne. On lit notre Bible, on lit des trucs, on se dit c'est bien. Et puis, quelle est notre mesure de mise en pratique ? Et là, je pense qu'on n'est pas mieux les uns que les autres. Hein. On met du temps à mettre en pratique. Pas si vous êtes comme moi, mais ça prend du temps. On lit un truc, ça nous touche et tout, et le temps qu'on met à le mettre en pratique derrière, c'est quelle patience le Seigneur a. On met du temps, hein. On est tous pareils, je pense, ou il n'y a que moi. On met du temps à mettre en pratique ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Et c'est dommage, parce que la Bible est claire, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible? Comme dit un verset des Proverbes, je crois, un léopard peut-il changer ses taches? Non. Alors, qu'est-ce qu'il en est des chrétiens? Alors, je pense que c'est plus facile quand on s'approche de Jésus, parce que là, il y a un gros changement dans notre vie. Et là, on est prêt au changement. On dépose nos fardeaux, nos péchés, Jésus nous pardonne, on sent cette libération. Waouh! C'est après que ça devient plus coriace. On est passé par la repentance, l'expérience du salut, le pardon. Et là, on pense que c'est fini. Le but est atteint. Le but est atteint. Mais pas du tout. C'est le point de départ. Alors, comment ça se passe pour les enfants de chrétiens? Parce qu'il y en a là quelques-uns, dont je fais partie, malgré mon grand âge. Ben, c'est un peu plus compliqué pour nous. Parce qu'on a été élevés dans la foi. On a appris à prier quand on a appris à parler. On est allé à l'église avant qu'on sache marcher. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais nous aussi, on a besoin de changer. Nous aussi, on a besoin d'être transformés par le renouvellement de notre pensée, même si on a appris très jeune à prier, si on a donné notre cœur à Jésus en sachant qu'on était pécheurs, ou même petit, on le comprend très très bien ça. Mais voilà, après, comment ça se passe? Eh bien, il faut être vraiment repenser à ce verset, soyez transformés par le renouvellement de notre pensée. C'est un processus qui doit avoir lieu tous les jours. C'est pour ça aussi qu'on est supposé lire notre Bible. Parce que le Seigneur va mettre le doigt sur quelque chose. Par exemple, ce matin, imaginez que quelqu'un soit concerné par le fait d'être complètement centré sur soi. En lisant ce texte, dire « Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus ne penser qu'à moi. Je veux penser aux autres, etc. » Voilà. Mais ça, c'est ce qu'un chrétien doit faire. Et c'est un travail. C'est un début. Et vous savez, je le dis toujours, on est tous en route. Et dans ce domaine, il n'y a pas des champions et des moins champions et des nullards. On est tous en route. Et l'un ou l'autre va être très en avance dans ce domaine, très en retard dans l'autre, moyennement dans celui-là. Ce qui fait que grosso modo, on est tous pareils. Hein. Voilà. Et c'est rassurant de se dire, bon, on est tous en route. Le pasteur autant que les autres, les derniers arrivés dans l'église autant, on est tous en chemin. Et les jeunes, les enfants de chrétiens sont en chemin aussi. Ils ne sont pas arrivés, ils ont aussi leur chemin à faire avec le Seigneur. Alors rappelez-vous de Paul. Certains théologiens, dont je crois aussi Alfred Kuhn, remarquent une amélioration dans le caractère de Paul. Vous n'avez peut-être jamais vu ça. Quand on étudie les lettres de Paul chronologiquement, on s'aperçoit qu'il est beaucoup moins dur vers la fin de sa vie. Il s'est adouci, notre brave Paul. Et je ne pense pas qu'il se soit trompé. Ils m'ont convaincu. Hein. Si vous lisez les lettres de Paul, voyez au début le jeune apôtre plein de fougue qui fonce dans le chou des gens, qui les livre à Satan, qui va... Et puis, plus le temps avance. Ils ont observé ça verset par verset dans le texte. Hein, moi, je ne suis pas compétente, je répète ce qu'ils ont dit, mais ils m'ont convaincue. Il semble que Paul soit beaucoup plus doux, beaucoup moins cassant. Alors, si l'apôtre Paul a évolué, pourquoi pas nous? Cet homme qui respirait la menace et le meurtre, j'aime bien ce verset, je trouve rigolo. On voit le dragon, là. Respirait la menace et le meurtre, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a été dynamique, puissant dans le Seigneur, et puis qui s'est adouci au fil des années. C'est une belle image, hein? Alors nous aussi, ça nous encourage. Pourquoi il dit « travaillez à votre salut » s'il n'y a pas de notion de progrès? Eh bien, il n'y a pas que le progrès, d'ailleurs, on peut changer dans l'autre sens. On peut empirer. Regardez les Galates. Oh, Galates insensés. Hein, c'est qui vous a arrêté? Ah oui, on peut aussi s'arrêter et reculer. Mais on change toujours, parce qu'on est vivant. Vous savez, les seules plantes qui ne changent pas, c'est les plantes en plastique ou en tissu. Mais les chrétiens, ils sont vivants et ils changent. Et ils peuvent s'améliorer ou ils peuvent empirer. Et C.S. Lewis dit qu'un chrétien qui empire, c'est ce qu'il y a de pire. Le seul vrai problème, c'est quoi alors? Je m'améliore, et c'est vrai aussi pour les jeunes, les enfants de chrétiens. Est-ce qu'on peut s'améliorer? On a déjà atteint la perfection en tant qu'enfant de chrétien? Non, arrête de tousser. Tonton, pourquoi tu tousses ? Voilà, on n'a pas atteint, donc on est en route. On est en route. Et il faut y aller, prendre son courage à deux mains et pas faire comme Saül. Hein ? Le seul vrai problème, il n'y a qu'un problème en fait dans ce domaine, c'est vouloir. Est-ce que je veux changer ? Est-ce que je veux renoncer à mes petites manies, à tous mes petits péchés mignons ? Parce qu'en général, les nôtres, on les trouve mignons. Ceux des autres, c'est pas mignon. Mais les nôtres, ils sont forcément mignons, c'est logique. Est-ce qu'on veut renoncer ? Ou est-ce qu'on veut se contenter de reconnaître qu'on n'est pas bien, mais on pleure dessus, puis on oublie ? Changer, c'est possible. De toute façon, on va changer. Saül a changé dans le bon sens, mais il y en a d'autres qui ont changé dans le mauvais sens. Saul de Tarse a changé dans le bon sens. Saül a changé dans le mauvais sens. Il s'est endurci, endurci, endurci. Et il y en a un autre qui s'est endurci comme ça, c'est Pharaon. Endurci, endurci, endurci. On peut aller dans ce sens-là aussi. Ce n'est pas souhaitable. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est une comparaison que je reprends à je ne sais plus qui, un homme politique. C'est comme le vélo. Si on ne roule pas, on tombe. Bon. Donc on n'a pas trop le choix. Voilà. Ça, c'était pour comment régler nos conflits. La vérité, hein. Et le respect, c'est vraiment les clés. Et puis se confier au Seigneur. Alors on va arriver, je pense qu'on a peut-être quelques minutes pour aborder le début. On va aborder le début du chapitre 25. Je pense qu'on le terminera la prochaine fois. Là, on rentre dans une autre période, et cette fois-ci, imaginez, ça va être intéressant, c'est David 14. Ça nous change un peu, hein ? Depuis le début où on a fait Samuel et David, j'ai pas arrêté de retomber sur le dos de ce pauvre Saül. Eh bien, cette fois-ci, c'est David qui va avoir tort, c'est génial. Chapitre 25, ça nous change un peu. Samuel mourut. Alors, vous savez, la Bible, j'aime bien la Bible. Quand elle dit juste ces deux mots-là, il y a tout un truc qui vous vient à l'esprit. Samuel meurt. Le prophète qui a nommé Saül, mais qui a aussi nommé David, qui a fait l'onction de David. Le prophète qui protégeait, vous vous souvenez quand il a été en danger, David est allé se réfugier chez Samuel, parce que Samuel était respecté et les gens n'auraient jamais osé faire de tort à Samuel. Ils avaient énormément de respect pour lui. On pense qu'il est mort vers 98 ans. 2 ans avant Saül, hein. Saül va mourir 2 ans après. C'est un deuil national, c'est un leader reconnu. Il y a juste 2 mots dans la Bible, Samuel mourut. Ah, ah. Ça veut dire beaucoup de choses pour le peuple d'Israël. C'est celui qui les avait ramenés au Seigneur, rappelez-vous, ça remonte à il y a 2 ou 3 ans quand on a fait Samuel. C'est celui qui avait ramené l'arche, c'est celui, enfin pas vraiment, mais il y avait eu tous ces problèmes avec l'arche qui avait confondu les Cananéens, les Philistins. Donc il y avait un grand respect, deuil national. Tout Israël se rassembla pour les funérailles. On l'ensevelit dans sa maison à Rama. Alors, on n'enterrait pas les gens dans leur maison, rassurez-vous. Mais on construisait des tombes à l'époque. C'était pas comme au temps de Jésus. C'était quand même 1000 ans avant Jésus. Ils avaient tendance à construire des tombes un petit peu comme nous. Ou dans certains pays, je sais qu'au Canada, je l'ai beaucoup vu aussi. Je crois dans les îles aussi, on a tendance à construire un monument funéraire assez haut, dans lequel, voilà, qui ressemble à une petite maison. Et apparemment, à cette époque-là, c'est ce qu'ils faisaient. Ça va changer à l'époque de Jésus, où on va mettre dans des cavernes, dans des grottes. Là, apparemment, c'est ce qu'ils faisaient. C'est pour ça, dans sa maison à Rama, voilà. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Alors, pour David, la mort de Samuel, voyez ce que ça signifiait. Hein. Il n'y a plus personne qui retient la main de Saül. Samuel n'est plus là pour te protéger. Il n'est plus là pour te défendre. Il n'a plus aucun pouvoir, il est mort, il n'a plus aucun pouvoir sur Saül. Ça signifie que la dernière chose qui retenait la main de Saül a disparu, donc David est encore plus en danger qu'avant. Sympa. Il vient d'avoir ce dialogue avec Saül, il a fait les choses comme il faut. Non mais, eh ben non, il est encore plus en danger qu'avant. Ah, vous savez, il y a des moments à la vie chrétienne comme ça. On dit « Seigneur, mais j'ai fait tout comme il faut !» Et puis les choses vont encore plus mal. Ça arrive, hein. Ça arrive parfois, c'est dur, hein, c'est une sacrée épreuve de foi. Mais le Seigneur est là, vous allez voir. Il a beaucoup d'humour en plus, vous allez voir, c'est très drôle. David, du coup, va aller encore plus loin de Saül, c'est-à-dire qu'il avance encore dans le désert. Il va encore plus loin vers le désert de Paran, au nord du désert. Et Colette, qui est allée sur place, m'a fait un petit texte sympa. Donc, je reprends ce qu'elle dit. Je ne pense pas qu'elle se soit trompée. Le désert de parents, c'est aussi celui où étaient Agar et Ismaël. Curieux, hein ? C'est celui de l'Exode. C'était le point de départ des espions. Donc, ouais, c'est très historique pour lui quand il va là-bas. Et il va aller donc près de la ville de Maon. C'est une ville de Juda où vit Nabal. Et on va voir aussi la ville de Carmel, c'est un village, ce qui veut dire jardin, pays fertile, pâturage vallonné, idéal pour les troupeaux. Il semblerait qu'à cette époque, c'était un petit peu plus verdoyant que maintenant, d'après ce que dit Colette. Mais moi, je ne suis pas allée sur place, donc je ne peux pas vérifier. Donc David va un petit peu plus au sud, un peu plus vers l'épreuve, un peu plus en danger. Ça ne s'arrange pas, les enfants. Hein. Alors, on va faire un peu la méthode. On a fait quand et où, maintenant, on va faire qui ? David et ses hommes, bien sûr. Et puis un groupe de jeunes hommes qui vont rencontrer ce fameux Nabal, riche propriétaire, dont ils avaient protégé les bergers aux confins du désert. Très intéressant. Nabal, c'était un propriétaire de troupeaux immenses, surtout du petit bétail, moutons et chèvres. C'était la richesse de l'époque. Hein. À l'époque, on ne collectionnait pas forcément les lingots d'or ou les actions, mais on avait des moutons et des chèvres. C'était ça la richesse. Et des terres. Des ânes aussi, qui étaient importants à l'époque. Hein. C'était la voiture de l'époque. Et de nombreux serviteurs. Nabal, c'est curieux, mais son nom, ça signifie insensé. Moi, j'aimerais pas ça du tout. Vous imaginez, vous appelez fou ou insensé? Apparemment, ça, il s'en fiche. Hein. Ça n'a pas l'air de le gêner. C'est un homme rustre, au cœur très dur, cruel, obstiné, égoïste et hautain. Enfin, il a tout pour plaire. Et c'est quand même curieux. Pensez à ce pauvre David. Il vient d'avoir affaire à Saül. Maintenant, il se trouve avec un type encore pire. En plus, il est bête. Mais c'est vrai. Et le pauvre, il vient de la famille de Caleb. Ça fait pas honneur à ce pauvre Caleb. Hein. Caleb, un des 12 espions qui a fait une démarche de foi extraordinaire, ça prouve que l'hérédité, ça suffit pas. Hein. Parce que franchement, celui-là, c'était un cas. Alors, on va lire. Il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel, donc paysage verdoyant, un village. C'était un homme considérable qui avait 3000 moutons, 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Ah, je ne sais pas pourquoi il le remarque, toutes les femmes ont du bon sens. Et fort belle. Mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Et j'aime bien l'humour, il descendait de Caleb. Je ne sais pas, moi j'aurais ajouté... Malheureusement, il descendait de Caleb. Bon, parce que ça ne fait pas honneur à Caleb. Étonnamment, voilà. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel, vous irez chez Nabal, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as les tondeurs et tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait rien de vil et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes jeunes gens. » Vous voyez, David est toujours dans les preuves concrètes. Hein. « Demande-le à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur, puisque nous venons pour un jour de fête. Donne-nous, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce que tu as sous la main. » Et lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? On va mettre les choses sur place, le décor. Eh bien, d'après ce que j'ai compris, après la période de tonte des moutons, qui était une période où on récoltait la laine, on la vendait, prospérité, c'était formidable, et bien on faisait une fête. Et tous les mois qui étaient passés avant, David et ses hommes avaient protégé les bergers. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient 600 là à traîner dans les pâturages. Certainement, ils donnaient des petits coups de main à droite à gauche pour avoir à manger. Ils étaient 600, il fallait quand même nourrir et donner à boire à 600 personnes. Donc vous imaginez un peu la scène, ils étaient un petit peu partout dans les villages et puis ils aidaient à droite à gauche. Et puis, normalement, les bandes de traînards comme ça, de fugitifs, ils se payaient eux-mêmes. Ils pillaient, ils volaient, ils faisaient du mal. Et eux, ils ont pris tout à fait l'attitude inverse. Ils ont proposé leur service gratuitement. Ils ont aidé, protégé les bergers. Parce qu'il y avait justement des bandes de pillards qui venaient voler les moutons avant la tonte, tant qu'à faire. Et voilà, moi, vous savez, mon voisin, il a des moutons. Il n'y a pas très longtemps, ils lui en ont volé 2 ou 3. Voilà, ça existe encore, hein. Les folles de moutons. Et donc, c'était facile, hein. Ils passaient, ils volaient les bêtes des gens, et puis voilà. Ah, en Martinique aussi, hein. C'est triste quand même, hein. Parce que tu ne peux pas les attacher quand même. Et du coup, eux, ils ont fait le contraire. Ils ont protégé les bergers contre les bandes de pillards. Ils ont veillé à ce que rien ne leur soit volé. Ils se sont comportés vraiment avec responsabilité. Et selon la culture de l'époque, ils auraient été automatiquement invités à la fête après la tonte. C'était normal. D'abord, comme l'a fait remarquer d'ailleurs Colette qui est allée sur place, elle dit les lois de l'hospitalité, les lois du désert, c'est d'accueillir, c'est d'inviter. Et s'il y a une fête, on invite les gens qui sont là, les gens autour. Donc, alors c'est pas notre mentalité européenne, hein. Les fêtes, c'est extensible. Comme les mariages antillais. Ah, c'est vrai. Ça a son bon côté. Et donc, c'était pas normal qu'ils n'invitent pas les jeunes gens qui avaient protégé leurs biens pendant tant de mois. Et ce qui va se passer, on va le voir la prochaine fois, c'est que le propriétaire, Nabal, va refuser avec mépris. Il va refuser avec mépris. Qui est David ? Qui est ce fils d'Isaïe ? Il y a tellement de serviteurs qui s'enfuient. Oh là là. Et là, David, vous savez, j'ai réfléchi, pourquoi David, il s'est mis en colère comme ça et il a décidé de le tuer ? Il avait appuyé sur les bons boutons. La maison d'Élie, tout à l'heure c'était TQP, cette fois-ci c'est la maison d'Élie. Qu'est-ce qu'on a appris ? Quand on réagit de façon disproportionnée à quelque chose, c'est parce qu'il y a des racines d'amertume dans notre cœur. Et quand il dit « Qui est David ? Qui est ce fils d'Isaïe ?» Il a appuyé sur la bonne racine, le bon bouton, son identité. On verra la prochaine fois. Finalement, je crois que Jacques Poujol avait raison. J'ai longtemps hésité parce que il disait toujours « Oh, mais David, il y avait des problèmes. » Ouais. Il avait un petit problème d'identité. Et Nabal a appuyé droit sur ce bouton. Et ça a marché. Je vais tuer toute sa maison. Il réunit 400 hommes et il est décidé à le tuer. Ah, pourquoi ? Parce qu'il y avait une racine d'amertume. Réaction disproportionnée. Et voilà, on verra ça donc la prochaine fois.